Bonjour à toutes les trois, donc pour cette émission de vendredi autour de la santé des femmes. J'ai autour de la table Aurélie Châtenay-Caliste, maître de conférences en histoire moderne, bonjour.
Bonjour.
Sophie Barrel, doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'université Rennes 2, bonjour.
Bonjour.
Et Nolan Langlois, rédactrice scientifique indépendante. Donc Aurélie Châtenay-Caliste, vous êtes maître de conférences en histoire moderne, directrice de la revue Apparence, autour de la culture du paraître et membre du bureau du GIS à Corso, Apparence, Corps et Société. Vous êtes également membre du jury du prix Mnemosyne, qui couronne un mémoire de Master 2 de langue française autour de l'histoire des femmes et de la question du genre. Et depuis 2008, vous êtes également membre du séminaire transdisciplinaire Genre, Corps et Espace, si je ne m'abuse, c'est bien ça?
C'est tout à tout fait ça. Bon. Voilà, j'écoute religieusement, c'est parfait, il n'y a rien à dire.
Alors, peut-être avant de vous poser la question, on va aborder donc l'histoire du genre ou la gender history. Et c'est quelque chose qui a peut-être donné un nouvel élan à l'histoire des femmes au début des années 1980. On peut retenir notamment les travaux de Joan W. Scott aux États-Unis et de Sylvie Steinberg en France. Donc, c'est-à-dire qu'à la distinction sexuée qui attribue des rôles et une certaine fixité au genre masculin et féminin, va s'ajouter l'idée d'une identité sociale qui est davantage mouvante. Mais donc, je vais vous donner la parole, Aurélie Châtenay-Caliste. C'est quoi, en fait, le genre et qu'est-ce qu'a apporté l'histoire du genre dans l'histoire des femmes?
Oh, vaste question.
Vaste question.
En quelques minutes, oui. Enfin, comme vous l'avez dit exactement, c'est l'idée vraiment que, déjà, il n'y a pas de théorie du genre, mais le genre comme outil de réflexion et l'idée que, justement, ces rapports hommes-femmes et le genre est une construction sociale, culturelle, qui peut se définir de façon différente selon les périodes, selon les milieux culturels. Et donc, c'est aussi intéressant d'étudier aussi les rapports hommes-femmes et comment eh bien, se définit et se construit le genre à une époque et dans un espace donné.
Par exemple, on va avoir des femmes nobles qui vont avoir énormément d'indépendance. Alors, il y a ce terme notamment d'agentivité,
oui,
qui marche très bien. C'est-à-dire que, en fait, la constitution physique ne définit pas le parcours de vie de quelqu'un, puisqu'il y a des libertés sociales, peut-être. Alors, là, je dis les femmes nobles, mais on peut aussi parler d'autres types de femmes, de milieux sociaux différents, en fait.
Effectivement, cette notion d'agentivité ou agency, pour reprendre la formule anglaise, c'est vraiment de voir justement comment dans un espace qui peut être justement très contraignant pour des femmes avec un certain nombre de normes, eh bien des femmes arrivent à justement utiliser des espaces de liberté pour s'affirmer, pour avoir une forme de pouvoir qui peut être vraiment pluriel. Alors on peut les rencontrer dans les femmes de la noblesse, mais aussi dans des femmes de la bourgeoisie ou même enfin, un monde beaucoup plus humble. Et c'est vraiment essayer de voir comment justement elles acquièrent des pouvoirs, que ce soit dans le domaine économique, social, culturel, comment elles s'affirment dans un cadre qui peut être extrêmement contraignant et comment elles jouent justement de ces espaces de liberté pour s'affirmer.
Alors, on va continuer les présentations avec Sophie Barrel. Donc, je disais, doctorante en sciences de l'information et de la communication. Est-ce que c'est bien ça?
C'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. Vous êtes aussi membre du comité d'éthique de l'université Rennes 2. Alors, de nombreux de vos travaux se font sous le prisme du féminisme et de ses représentations sur le numérique. La question de l'image et de l'identité numérique en ligne semble assez essentielle pour vous. Et j'ai retenu donc deux travaux. Princesse contre féministe, rejet, mutation, réappropriation d'une figure culturelle archétypique à l'ère du féministe en ligne, ou encore peau et féminisme en ligne, exposition et retournement du stigmate dans la revue La Pologie, qui était dédiée à la peau comme marqueuse politique. Donc l'appropriation de l'espace public pour les femmes est observée, alors je vais reprendre un peu en arrière, hein, par Louis-Sébastien Mercier, que vous connaissez peut-être, à la fin du XVIIIe siècle. Et alors, à cette époque, c'était surtout le mode vestimentaire qui donnait l'accès peut-être à une identité sociale pour les femmes. Mais vous, votre spécialité, j'ai l'impression, c'est l'identité numérique. C'est bien ça?
Alors oui, parce que moi, je suis sur un corpus qui est contemporain, au départ, qui était juste avant ce qui s'est passé avec MeToo, l'affaire Weinstein, etc. Parce que j'ai démarré ces recherches-là déjà quand j'étais en master, à peu près en 2013, par là. Donc c'est des trucs extrêmement contemporains. Je ne suis pas très très calée en histoire, je vais laisser ça à d'autres qui font ça très bien. Mais voilà, donc moi je suis vraiment sur l'identité numérique et comment avec cet outil-là, on peut justement se réapproprier des pouvoirs d'action. Parce que l'avantage d'Internet au départ, c'était qu'on pouvait publier des choses sans comité de validation. contrairement à un magazine, par exemple. Voilà. Et il y avait des amateurs qui se permettaient d'avoir des discours ou des représentations qu'ils produisaient eux-mêmes, qu'ils mettaient en ligne. Et ça crée toutes sortes de bouleversements par la suite.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est une faiblesse ou c'est une force, justement, qui permet de s'affirmer, peut-être, et puis de faire avancer certains combats, comme vous le dites ?
Moi, j'aurais tendance à être assez optimiste vis-à-vis de ça et à le voir comme une force, parce qu'en gros, ça a donné de la place publique à des thématiques qui n'étaient pas forcément ou qui n'étaient pas vraiment considérées. Notamment au niveau de la santé des femmes, enfin, en tout cas des personnes avec utérus par exemple, et de mettre ça sur le devant de la scène, de réintéresser à tout ce qui va être grands médias, journalistes qui vont se réapproprier aussi ces discours-là du quidem des internets et remettre ça sur le devant de la scène, quoi. Et c'est hyper important, donc ça fonctionne un peu dans une sorte de vase communicant et non, moi je suis très très optimiste vis-à-vis de ça, enfin... Après, c'est peut-être un choix personnel aussi, mais...
Oui, c'est-à-dire que nous, les plus jeunes, on a grandi avec les réseaux sociaux, peut-être. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, je vais pas vous demander, mais c'est vrai que ça permet peut-être une plus grande pluralité et puis de ne pas enfermer le débat justement autour de la santé des femmes. Ça permet aussi d'avoir plusieurs points de vue, une ouverture une ouverture de la parole aussi, des gens qui vont oser s'exprimer... Voilà.
C'est marrant parce que moi, je fais partie de cette génération qui a vu l'arrivée d'Internet dans les foyers et des réseaux sociaux, etc. Donc, je pense que ça participe à mon optimisme, d'ailleurs. Enfin, c'est peut-être que c'est un de mes biais, justement. Je me souviens très précisément de ce moment où je me suis dit « Waouh, tu as accès à un moteur de recherche, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. C'est incroyable, toute l'information de la planète est là. » en vrai de vrai, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais en tout cas, il y a cette espèce d'utopie qui était là, qui n'est pas exactement la même utopie que celle qu'on avait prévue au départ d'ailleurs. Il s'avère que Internet est quand même très centralisé, qu'il y a des médias, des réseaux sociaux de masse, etc., les GAFAM et tout. C'est pas anodin non plus. Mais malgré ça, il y a des espaces de résistance et il y a plein de gens qui vont quand même prendre le pouvoir d'action là où il est et produire des choses. Après, c'est vrai que moi, dans mon corpus et dans mes études, on se rend compte qu'il y a toujours une place qui est donnée à ce qu'on va appeler un peu les figures d'autorité et qui peuvent être, par exemple, les influenceurs. Donc, il y a des gens qui vont être étendards de discours et qui vont représenter des discours qui existaient déjà avant et qui... c'est aussi une façon d'avoir une facilité de communication sur les mouvements, etc., dans le sens où c'est un peu flou ce que je dis.
Mais non, c'est très intéressant.
C'est plus simple d'expliquer un mouvement en disant c'est machin qu'il a lancé à telle époque que de dire pendant plein d'années il y a des gens qui ont communiqué là-dessus et c'est plus compliqué à expliquer. Donc forcément, on doit faire des raccourcis. Mais donc la figure d'autorité est toujours là. Moi, je travaille plus sur justement les personnes pas connues qui vont parler à pas beaucoup de monde, mais ça crée quand même une foule et peut-être même une intelligence des foules, pour reprendre un terme déjà existant. C'est ce que j'appelle les murmurations dans ma thèse. Même si on parle à 5 ou 6 personnes autour de soi, si tout le monde le fait, à un moment, ce discours il se diffuse quand même. Et c'est comme ça qu'on crée un cri, une foule et que ces discours-là sont portés, quoi. Et sur des sujets hyper importants comme la santé des femmes, qui a été pas mal délaissée, que ce soit au niveau de la science, au niveau du débat public, etc., alors qu'on représente la moitié de la population mondiale, donc c'est pas rien.
Et d'ailleurs, Nolan Langlois, vous le dites dans votre article, que vous représentez la moitié des femmes dans votre introduction, dans cet article, donc « Les règles, c'est oublier des sciences ». Donc je vais vous présenter aussi, donc j'ai dit « rédactrice scientifique indépendante ». Vous parlez de votre projet dans votre CV, tout simplement d'écrire pour différents médias, mais pour toujours parler de science. Donc je l'ai dit, vous avez écrit « Les règles, c'est oublier des sciences ». Vous dites notamment en introduction de votre article « Empêtrés dans des tabous immémoriaux, les menstruations ont longtemps été délaissées par les sciences ». Et plus loin, la prise en charge des différents troubles menstruels s'avère encore sinueux. Mais alors, c'est peut-être un peu vaste comme question, mais pourquoi la question des règles, elle est compliquée encore aujourd'hui en fait ?
Pourquoi elle est compliquée encore aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas forcément évidente, mais je pense que il faut partir du phénomène des règles en lui-même. Si on l'exclut en fait du phénomène de grossesse, il faut savoir aussi que la médecine avant s'intéressait aux femmes et à la santé des femmes et par le prisme de la grossesse. Donc les menstruations, ce n'était pas un sujet qui méritait de l'intérêt. Et si on élargit encore plus, c'est pareil. Hein, au niveau de la sexualité, c'est la même chose. Hein. Le clitoris complètement oublié, on le voit un peu plus sur le devant de la scène maintenant, c'était parce qu'il n'avait pas de fonction reproductrice, complètement oublié, alors que bon, il a déjà été découvert dès l'Antiquité, au deuxième siècle, il me semble, puis a été redécouvert durant le XVIe, il me semble, et donc complètement oublié par la suite parce que pas de fonction reproductrice. Et il me semble que les premiers IRM de clitoris, ça date de 1998. Donc le sujet des règles, c'est encore compliqué. Là, on parle aussi de représentation des règles. Le sang dans les publicités, c'est arrivé que depuis quelques années. Hein, c'était encore le sang bleu dans les pubs de tampons ou de protection périodique.
Ouais. Et d'ailleurs, la question des règles, elle est entrée en politique. Elle a toujours été en politique. Et malheureusement, elle fait l'objet d'instrumentalisation. Je disais justement que le Rassemblement national, il avait proposé une loi sur l'endométriose, un texte pour soutenir les femmes qui souffrent d'endométriose en leur accordant un statut d'affection longue durée. Ce statut permettrait d'accéder à une totale prise en charge par l'assurance maladie. Alors, on est vraiment face à une proposition de l'extrême droite. Et la ministre, justement, ministre de la Santé, ou je ne sais plus, enfin voilà, c'est une ministre qui disait, mais en fait, c'est un problème beaucoup plus large que les règles, la souffrance féminine vis-à-vis de ces douleurs.
Oui, c'est un problème plus large. Après, c'est important de parler de l'endométriose parce que ça touche une personne sur 10 en âge de procréer. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres troubles, d'autres syndromes. Je parle des ovaires polykystites, par exemple, ou même les syndromes prémenstruels. Donc il faut aussi le voir de manière plus large, d'accompagnement, de diagnostic, et oui, beaucoup d'accompagnement. Et peut-être, oui, l'endométriose, c'est aussi difficile à diagnostiquer, ça peut prendre des formes très différentes selon les personnes. Donc je ne sais pas après comment ça va être mis en place, mais...
Mais le souci, c'est aussi que, justement, ce n'est pas un arrêt de travail qui va régler le problème. C'est aussi la prise en charge par des professionnels de santé de ce problème-là. Et d'ailleurs, vous l'expliquez dans votre article, qui est de mieux en mieux au fil du temps, mais ça doit encore progresser.
Après, la problématique aussi d'un arrêt de travail, c'est que, en fait, ça peut desservir à la personne, au final. Parce que, bon, sur le coup, oui, ça permet de rester chez soi. Mais après aussi, ça peut, à l'avenir, dissuader, je ne sais pas, à l'embauche ou même, je sais que ça, les congés menstruels, ils ont déjà été mis en place dans certains pays asiatiques, mais sauf qu'ils ne sont pas du tout utilisés. Parce que si les personnes ne peuvent pas se permettre de pas se présenter plusieurs jours dans le mois au travail.
C'est trop compliqué après, justement. J'imagine que psychologiquement, c'est parfois des situations qui sont difficiles malgré tout. C'est pas parce que le travail n'est pas là que...
Oui, aussi, mais justement sur le marché du travail, c'est pas forcément évident vis-à-vis de l'employeur de pouvoir être absent. Voilà, c'est ça.
Alors Aurélie Chatonnet-Cazis, je me retourne vers vous. Dans l'article justement de Nolan, vous dites « La médecine vient conforter l'opinion, les superstitions et la religion qui considèrent que la femme qui a ses règles est impure et souillée. » Alors cette image qui nous vient vers de la fin du Moyen-Âge peut-être, et justement avec ce moment très symbolique des relevailles, ça c'est vraiment un moment très très particulier où la femme pendant 40 jours elle est marginalisée. Et au bout de 40 jours, en fait, elle va être réintégrée dans la communauté. Mais l'idée qu'il y a une souillure, même pendant l'Antiquité, c'est la miasma, les règles féminines.
Alors effectivement, les règles ont vraiment eu une image très, très négative. Et encore, on est resté encore, même aujourd'hui, avec des proverbes ou même des idées qui sont encore diffuses, qu'une femme qui a ses règles ne peut pas, je ne sais pas, faire une c'est pas une béchamel,
une
mayonnaise, voilà, vous voyez, tout le monde le sait. Donc, voilà, c'est connu, ou ne peut pas aller dans le saloir, ou ne peut pas aller dans certains endroits, parce qu'elle va faire tourner les produits alimentaires. Donc c'est quand même quelque chose qui est resté très, très ancré et qui date effectivement d'il y a très longtemps. Et donc oui, une image très, très négative aussi parce que contrairement aux hommes, les femmes, leurs organes génitaux sont plutôt à l'intérieur. Enfin, génitaux, les organes reproductifs sont plutôt à l'intérieur par rapport à l'homme ou qui sont à l'extérieur. Donc c'est la matrice, l'utérus est... Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, et donc effectivement, ça inquiète aussi. Et cet écoulement inquiète aussi tout le monde, quoi, en fait. Donc, ça, c'est un élément qui explique aussi cela. Et effectivement, il y a ce côté impur qui fait que les femmes doivent être écartées de certaines activités économiques, à l'écart donc d'une vie sociale aussi, dans ces moments particuliers qui sont notamment ceux des règles. Voilà.
À tel point d'ailleurs que pendant longtemps, on pense que la femme est une sorte de copie inversée de l'homme et que l'utérus est un sexe inversé d'ailleurs.
Exactement. On pense la femme par le prisme de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de traités médicaux ou d'autorité médicale, ce sont des hommes. Ou même d'autorité religieuse, ce sont majoritairement des hommes aussi. Donc en fait, la femme et le corps de la femme et la santé de la femme est pensée par les hommes, donc avec cette image des organes masculins qui seraient inversés par rapport à ceux de l'homme. Donc effectivement, il y a ce regard masculin. Il faut attendre vraiment le milieu du XVIIIe siècle pour qu'on commence à avoir une définition un petit peu médicale de la femme et toute une série de traités médicaux qui portent sur les femmes, que ce soit les femmes, les jeunes filles ou les femmes plus âgées également. Il y a les deux temps, puberté, ménopause qui se répondent. Mais c'est encore, finalement, ça vient aussi finalement conforter et renforcer que cette femme est fragile. Et la femme qui a ses règles est un moment fragile. Et une femme ménopausée, à l'inverse, c'est aussi un temps absolument, c'est l'enfer. Enfin, c'est littéralement le mot qui est employé. Donc, il y a vraiment l'idée que la femme est vraiment un peu toujours sur un fil à cause justement de cet organe un peu bizarre quand même, ce monstre un peu à l'intérieur d'elle, qui est la matrice. Qui est donc l'utérus.
Et d'ailleurs à tel point que les étudiants sont assez surpris de la théorie des humeurs qui font que l'homme est chaud et sec et la femme froide et humide. Assez perturbant, je dois dire. Sophie Barrel, par rapport à la représentation numérique, Nolan Langlois parlait notamment de la représentation des règles, la couleur du sang. Et vous avez donc écrit un article sur la représentation aussi de la peau, si j'ai bien compris, féminine. Donc c'est des sujets sur lesquels on évolue visiblement.
Oui, alors déjà je vais vous raconter une petite anecdote qui va faire rebond avec ce qui a été dit juste avant sur l'histoire de une femme peut pas monter une mayonnaise quand elle a ses règles. Il y a une version plus actualisée qui existe qui dit qu'une femme qui a ses règles ne peut pas, enfin une personne qui a ses règles ne doit pas toucher un ordinateur parce qu'elle peut faire péter les trucs.
C'est du magnétisme en fait, c'est le.
Semble-t-il. Mais moi c'est quelque chose que j'ai notamment entendu quand j'étais plus jeune et dans des entretiens, enfin dans des choses que j'ai fait pour la thèse qui ont pu ressortir parfois. Donc la légende urbaine persiste, hein, et elle s'adapte. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Donc oui, j'ai travaillé notamment sur la peau. En gros, moi je travaille sur une sorte de cartographie du corps militant féminin sur les réseaux sociaux. Et dans cette cartographie, il y a pas mal d'éléments qui sont très identifiés, avec des hashtags associés, avec des représentations associées, des discours associés. Il y a quand même des cadres communicationnels qui se recoupent de temps en temps et qui, on sait que ça fonctionne, donc on les utilise. Et donc il y a celui de la peau, il y a celui des menstruations, etc., qui vont pas forcément arriver au même moment ou qui se suivent. Par exemple, les menstruations, ça a pas mal popé dans l'année 2015, je dirais. Il y avait déjà des choses qui existaient avant, mais ça pouvait être un peu plus peut-être isolé ou voilà. Mais il y a un moment où il y a la bonne personne, le bon timing, le bon discours qui fait que tac, ça s'enclenche. Et la représentation des règles, c'était notamment avec une publication sur Instagram, celle de Rupicor, qui est une, je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, parce que je l'ai toujours lu, mais je l'ai jamais entendu. Qui a mis une photo d'elle sur Instagram. C'est une insta-poète, donc une personne qui écrit de la poésie sur les réseaux. Et en gros, cette photo a été enlevée d'Instagram parce que, soi-disant, ça ne respectait pas la charte de la plateforme. Or, il s'avère que si, parce qu'il n'y avait pas de nudité, enfin rien que d'elle. C'était juste une nana en pyjama vue de dos avec une tache Donc il y a eu une demande de revoir la dite publication qui a été re-strikée de la plateforme. Donc là, est-ce que c'est vraiment une erreur ou pas? Le doute est permis. Et à partir de là, il y a plein de choses qui sont apparues. Il y a des personnes en France qui ont aussi créé des discours et des plateformes dédiées à cette question-là. En France, on a l'autrice Jack Parker, par exemple, qui avait travaillé là-dessus. Mais voilà, il y a plusieurs personnes qui vont s'emparer de la thématique et ça va créer un amas de représentations et de discours qui va être lié aux menstruations. Et ça existe avec la poitrine, avec la question des violences gynécologiques, avec la peau, notamment tout ce qui va être tatouage féministe aussi, par exemple, sur lequel j'avais travaillé à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça que je parle d'une cartographie qui se construit un peu en sérialité, avec plein de gens qui contribuent à cette représentation-là.
Voilà. Très bien, très bien, très intéressant. Je vais encore une fois me retourner vers Nolan. Nolan, vous dites quand même que les règles, ça équivaut à 2400 jours à peu près dans une vie féminine. Et alors, moi, j'aime bien la dualité de votre conclusion. Finalement, il faudrait rendre visibles ces oubliés des sciences, c'est à la fois donc lutter pour faire progresser à la recherche sur les cycles menstruels et les troubles associés, tout en banalisant le sang qui en résulte, car lorsqu'il s'écoule, il n'y a pas de mort d'homme. Donc c'est-à-dire qu'à la fois, il faut avancer, mais il ne faut pas non plus diaboliser ou en tout cas trop dramatiser ce sujet.
Bah, en fait, c'est important de faire avancer la recherche sur les cycles menstruels de manière générale. Donc les règles, en fin de compte, c'est qu'environ 7 jours dans le mois, les cycles menstruels, c'est des cycles qui continuent tout au long de la vie. Donc ces troubles, ils sont importants. En revanche, le sang qui s'écoule dans cette période que sont les menstruations, il ne faut pas rendre cette chose dramatique ou bien vouloir donner des interprétations un peu fumeuses, si je peux dire le mot. Voilà.
Et d'ailleurs, vous dites aussi qu'il y a une partie de la population qui souffre de l'endométriose et ça aussi, donc, c'est un sujet qui doit avancer parce que c'est douloureux, ce sont des règles donc douloureuses. Hein. Pour rappeler la définition.
Mais surtout, l'endométriose, c'est quelque chose qui arrive tout du long, en fait. C'est pas forcément quelque chose qui se manifeste forcément durant les menstruations. Et ça peut se produire dans toutes les parties, dans toutes les parties du corps. Donc, ça peut être très douloureux. Et en fait, c'est difficile, Le problème avec l'endométriose, c'est que c'est très différent d'une personne à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir énormément de lésions sans que ça fasse très très mal, peu de lésions à certains endroits et ça peut être très très douloureux. Et en fait aussi, il y a la relation patient-praticien-sachant, entre guillemets, qui est aussi à revoir, à améliorer, parce qu'on est souvent resté dans dans cette relation où les douleurs sont, on vient consulter, mais les douleurs sont normales. Les règles, c'est comme ça, on a mal et donc il ne faut pas forcément s'en soucier. Après, donc les personnes ne veulent pas forcément venir pour des douleurs ou croient. En fait, il y a cette intériorisation que les douleurs durant les règles sont normales.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est compliqué. Il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'elles avaient finalement l'endométriose à partir du moment où elles sont arrivées à la période de la ménopause. Donc il y a cet arrêt de l'endométriose, mais... donc il faut attendre des décennies et des décennies pour se rendre compte des fois. Il me semble que entre l'apparition des premiers symptômes, etc., et le diagnostic, environ, c'est 7 ans. Ça s'est amélioré maintenant, je crois qu'on est à 7 ans à peu près. Donc, c'est très long, c'est encore très long.
Eh bien, le temps file, donc je vais vous remercier toutes les trois. Je rappelle donc Aurélie Châtenay-Caliste, Sophie Barrel et Nolan Langlois. Voilà, merci beaucoup à toutes les trois et à la prochaine.